Voilà, et nous allons débuter les matins avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La main de Dieu avait déposé un génie du football sur Terre. Hommage lyrique d'Emmanuel Macron au génie Maradona dont vous parliez à l'instant, Guillaume Erner. Le plus grand footballeur de tous les temps, selon le chef de l'État et des millions de fans du ballon rond sur la planète. Mais pas seulement, une personnalité sulfureuse passée de la pauvreté aux soirées luxueuses avec la mafia à Naples, tout en restant proche de Fidel Castro. Portrait et réaction dans un instant.
Et puis à la une en France, un casse-tête supplémentaire pour le gouvernement en ces temps de crise, la réforme de l'assurance chômage, très critiquée par les syndicats. Elle est partiellement retoquée par le Conseil d'État.
Il faudra réécrire les règles de calcul de l'indemnisation des chômeurs, mais aussi le système de bonus-malus pour dissuader les entreprises de signer des contrats courts.
Jean Castex va mettre en musique aujourd'hui la partition donnée par Emmanuel Macron mardi soir.
Des précisions notamment sur les conditions de réouverture des commerces et des lieux culturels. La filière textile craint, elle, de ne pas pouvoir écouler ses stocks d'ici la fin de l'année après la réouverture des boutiques. Moins de commandes auprès des fournisseurs, conséquence à l'autre bout de la chaîne, en Inde ou au Bangladesh. Des milliers d'ouvriers, mais surtout d'ouvrières, plongent un peu plus dans la misère. Nous irons sur place dans ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, une question de chauffage. Le gouvernement veut, semble-t-il, aller vers la fin du chauffage au gaz. Pourquoi ? Je poserai la question à Olivier Sidler, il est ingénieur en énergétique.
Rarement un sportif aura suscité une telle adulation, dépassant largement les stades de football où il excellait par ses accélérations, pied gauche imparable, main gauche aussi. L'Angleterre se souvient de cette fameuse main de Dieu en quart de finale de la Coupe du Monde de 86. Diego Maradona est mort à l'âge de 60 ans, infarctus et œdème pulmonaire. Il avait le cœur d'un homme de 90 ans, révèle son autopsie. La mort de cet ancien accro à la cocaïne, proche de la mafia à Naples, mais aussi grand ami de Fidel Castro et d'Hugo Chavez, n'émeut pas que les fans du ballon rond. Émoi général en Argentine, 3 jours de deuil national, car Maradona, enfant des bidonvilles, accédant au firmament de l'Albiceleste, la sélection nationale, était aussi une figure politique. Le reportage à Buenos Aires de Caroline Vic.
Ce but mémorable de Diego Maradona contre l'Angleterre lui vaudra le surnom de la Mano de Dios, la main de Dieu. Une fierté nationale qui dépasse le football et qui servira de revanche pour les Argentins après le drame de la guerre des Malouines. Francisco, 35 ans.
Era un símbolo nacional de aquellas conquistas.
C'est un des symboles de ces grandes conquêtes qui mêlent la souffrance, même avec une cheville cassée. Il continue à lutter malgré les échecs. C'est un homme qui se relevait toujours la tête haute et grâce à ça, il nous a offert une Coupe du Monde, avec tout ce que ça signifie. Il nous a rendu une sorte de justice poétique avec la main de Dieu contre les Anglais. C'était comme une revanche.
Maradona était engagé également en faveur de la gauche latino-américaine dont l'idole était le Che Guevara. Avec Chavez au Venezuela, il aimait discuter marxisme. Et puis ces derniers jours, Diego avait l'intention de voyager à Cuba pour sa convalescence. Une destination qui lui rappelait son ami intime, l'autre leader, Fidel Castro, qui, signe du destin, est mort il y a 4 ans, jour pour jour, un même 25 novembre. Maradona était donc une figure politique sur le terrain et en dehors, une manière pour lui de revendiquer ou du moins de ne pas oublier la pauvreté et ses origines d'enfant des bidonvilles.
Caroline Vic à Buenos Aires pour France Culture, où des millions d'Argentins ont déjà prévu de dire adieu à leur idole en se recueillant sur son cercueil installé jusqu'à ce soir dans le palais présidentiel. Hommage également à Naples où Maradona avait joué de 84 à 91 et fait gagner 2 championnats au club de foot de la ville comme une revanche là encore face au club plus riche du nord de l'Italie. Certains n'oublient pas la face plus sombre du joueur comme Gian Valerio, un Napolitain de 56 ans qui a bravé le confinement pour se rendre devant le mur de Maradona au cœur de Naples. Il se souvient du génie du foot, de l'homme et de ses liens avec la mafia.
Il l'invitait pour les fêtes des enfants, les baptêmes, et Diego n'a jamais dit non parce que cela changeait quoi qu'il y aille. Il y allait et basta. C'est sûr qu'il a participé à toutes les fêtes de la Camorra napolitaine de l'époque. Mais c'est le même Diego qui allait jouer un match pour un enfant malade du cœur. Il nous a tellement donné sans jamais rien demander. Il n'aurait pas dû naître argentin, il aurait dû naître à Naples.
Un propos recueilli par Bruce de Galzin à Naples pour France Culture.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. En France, les syndicats se sentent galvanisés pour réclamer un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage.
Car le Conseil d'État vient d'annuler des dispositions centrales du texte, notamment Catherine Pétillon, sur la règle de calcul des allocations.
Elle constitue une rupture d'égalité entre les allocataires, dit le Conseil d'État. Le montant des allocations chômage est calculé en fonction de ce qu'on appelle un salaire journalier de référence. Mais la réforme modifie la manière dont il est calculé. Au lieu de diviser le total des salaires perçus par le nombre de jours travaillés durant les deux années précédentes, le divise par l'ensemble des jours de la période. Or, ce système pénalise fortement les personnes alternant chômage et contrat court. Pour un même nombre d'heures de travail, le montant du salaire journalier de référence peut varier du simple au quadruple en fonction de la répartition des période d'emploi, constate le Conseil d'État. L'instauration d'un bonus-malus payé par les entreprises abusant des contrats courts et contestée par le patronat est-elle annulée pour des raisons de forme? Cette décision du Conseil d'État intervient alors que le gouvernement, en raison de la crise liée au Covid, a suspendu l'application de la réforme au 1er avril et surtout qu'il est en pleine discussion avec les partenaires sociaux sur l'adaptation de sa mise en œuvre. Autant dire que la prochaine réunion, censée se tenir début décembre, ne prendra pas la même tournure. Elle permettra, je cite, de proposer des solutions conformes à la décision du juge, a réagi le ministère du Travail. Syndicats de salariés et associations de chômeurs continuent de réclamer un retrait total de la réforme et appellent à manifester le 5 décembre prochain.
Pour les travailleurs précaires qui travaillaient significativement avant la crise du Covid-19, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, annonce pour eux une aide exceptionnelle qui devrait concerner près de 300 000 personnes, dont 70 000 jeunes. Le versement de cette aide durera le temps que le marché du travail se stabilise, précise Elisabeth Borne dans un entretien à lire ce matin dans Les Échos. Le Premier ministre Jean Castex va apporter dès 11h ce matin des précisions sur le calendrier de sortie progressive du confinement présenté mardi soir par le chef de l'État. Les professionnels du ski, les associations d'élus de montagne ne décolèrent pas après la décision de ne pas laisser rouvrir les stations avant la mi-janvier. Le secteur du ski pèse 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et la saison de Noël compte pour 20 à 25% de ses rentrées financières. On y revient dans le journal de 8h avec Clara Lecoq-Réal. Elles ont le droit de rouvrir dès samedi, mais ne pensent pas rattraper les millions d'euros de chiffre d'affaires perdus avec le confinement. Des boutiques de vêtements ont vu les dépôts de bilan, les risques de faillite se multiplier. Et il y a donc un mince espoir de survivre aujourd'hui dans le cœur marchand de Paris. Sarah Derce s'est rendue au Forum des Halles.
Derrière le rideau de fer, les promotions s'affichent en grand, moins 40%. Émile Sebag doit assurer les charges de sa boutique fermée, financer ses collections à venir, mais avant tout, écouler les 80% de stock restants.
On espère que les gens vont venir et on va être en promotion. C'est-à-dire qu'il nous reste de l'été, on a notre hiver, et c'est pour ça qu'on est dans la contrainte de remise, dans la contrainte d'écouler, sans regarder la marge. Parce que sinon, on va mourir de notre stock, en fait. L'urgence aujourd'hui pour nous, commerçants, c'est la trésorerie. De répondre à nos échéances bancaires. De payer nos fournisseurs et de payer nos loyers.
Ce gérant indépendant n'a pas d'autre choix.
Soit on ne fait pas de remise et on ne vend rien, et donc on conserve totalement notre stock et nos échéances à la banque, soit on réduit la plaie en écoulant au moins nos stocks et en payant nos fournisseurs.
Déstocker donc une urgence pour pouvoir libérer la chaîne de production, selon Nathalie Ruel, professeure à l'Institut français de la mode.
Les fournisseurs qui voient leurs commandes bloquées ou annulées, soit des fournisseurs hexagonaux, soit des fournisseurs à l'international, qui voient de toute façon leurs commandes diminuer et être bloquées, puisque c'est le cas quand même, cette restriction et ces confinements et cette restriction de consommation de mode est le cas pour toute l'Europe.
Une crise qui fait réfléchir tout un secteur sur ses lieux d'approvisionnement. Certains militent déjà pour une production plus locale, plus proche des lieux de vente.
Et la baisse des achats de vêtements en Occident a un impact direct sur les emplois de millions de personnes à l'autre bout du monde, en Inde ou au Bangladesh. Ce pays asiatique, par exemple, est le deuxième plus grand producteur d'habits après la Chine au monde. Et plus de 4 millions de travailleurs dépendent de cette filière textile. L'arrêt des commandes a donc plongé des centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières un peu plus dans la misère. Sébastien Farcy.
3 milliards d'euros, c'est le coût immédiat de la crise sanitaire pour les entreprises bangladaises du textile. En effet, plus de 3 milliards d'euros de commandes ont été annulés par les acheteurs étrangers lors des premiers mois de la crise. Et l'organisme patronal du secteur estime même que le coût est encore plus élevé car les revenus au Bangladesh ont baissé de 4,1 milliards d'euros entre mars et juin par rapport à la même période de l'année dernière. Selon ce syndicat patronal, 300 348 usines ont fermé à cause de cela au Bangladesh, ce qui représente près de 9% du nombre total. Les commandes, depuis, sont faibles et les acheteurs étrangers feraient même pression pour réduire les prix qui sont déjà bien bas. Tout cela a bien sûr un impact sur les plus de 4 millions d'ouvriers du textile au Bangladesh. Ce sont en grande majorité des femmes de milieux pauvres qui gagnaient environ 100 euros par mois jusqu'à présent. Les entreprises et le gouvernement les ont partiellement soutenues au début, mais aujourd'hui des centaines de milliers ont perdu leur emploi et doivent chercher un travail informel bien moins rémunéré. À terme, c'est toute une classe d'ouvriers qui pourrait sombrer dans la pauvreté.
Correspondance signée Sébastien Farcy. La pandémie pourrait effacer 25 ans d'avancée pour les femmes. Elles effectuent davantage de tâches domestiques encore qu'avant la pandémie, selon l'ONU, qui a mené une étude dans une trentaine de pays. Les femmes travaillaient avant l'arrivée du Covid-19 trois fois plus que les hommes à la maison. Ces chiffres ont doublé aujourd'hui. Rien qu'en septembre, par exemple, aux États-Unis, près de 865 000 femmes ont arrêté de travailler contre 200 000 hommes pour effectuer davantage de tâches à la maison. Toujours aux États-Unis, les démocrates dénoncent une atteinte à l'état de droit après que Donald Trump a gracié Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, le général qui avait plaidé coupable en 2017 pour avoir menti au FBI et au vice-président à propos de ses contacts avec un diplomate russe pendant la campagne présidentielle de 2016. Cette grâce n'étonne pas Omarasa Manigault-Newman, ancienne conseillère de Donald Trump, interrogée sur la BBC.
J'ai travaillé avec Michael Flynn pendant l'année que j'ai passée à la Maison Blanche et ça ne me surprend pas de voir que sa loyauté envers Donald Trump a payé. Je m'attends à voir d'autres récompenses de ce genre pour les fidèles de Trump, peu importe la gravité de leurs crimes. Et Donald Trump pose les jalons d'une sortie dramatique. Lui, le présentateur télé, il aime les fins dramatiques. Et quoi de plus fort, peut-être, que de se protéger lui-même de poursuites judiciaires au niveau fédéral en se graciant lui-même.
Omarosa Manigault-Newman, ancienne conseillère de Donald Trump, qui ne fait donc qu'émettre une hypothèse, même s'il existe un flou juridique sur la grâce d'un président sur sa personne. Le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire des écoutes se tiendra-t-il avant la fin de l'année? Après un faux départ lundi, le tribunal doit se prononcer aujourd'hui lors de la reprise sur la demande de renvoi formulée par l'un des prévenus. Quelques mots du temps de ce jeudi 26 novembre, couvert, voire faiblement pluvieux dans la moitié nord du pays, un peu plus ensoleillé au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 10 et 17 degrés des Hauts-de-France vers la Nouvelle-Aquitaine. Et la Corse, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. 7h12, dans quelques instants, on va évoquer la fin du chauffage au gaz. Un pas de plus vers la transition énergétique. Je poserai la question à Olivier Sidler.